L'Épître aux Colossiens, chapitre 2. Alors prions. Seigneur notre précieux Sauveur, merci pour la joie d'être rassemblés ce matin. Merci pour la joie de pouvoir chanter tes louanges, de pouvoir chanter comme tu es grand, comme tu es saint et quel grand Sauveur tu es. Merci Seigneur pour la joie de se rappeler, de se remémorer chaque semaine, chaque jour, le grand salut que tu nous as donné. Merci Seigneur de nous avoir donné ta parole aussi, par laquelle on peut te connaître avec assurance, avec vérité. Merci Seigneur de nous l'avoir donné pour nous instruire, pour nous transformer, pour nous montrer le chemin, nous donner la puissance pour t'obéir, te suivre et avoir des vies pleines en abondance, des vies avec toi pendant notre séjour ici sur Terre. On veut te demander d'éclairer nos cœurs, d'éclairer notre intelligence, d'éclairer notre volonté, nos désirs, nos émotions, alors qu'on ouvre ta parole ce matin et on veux te demander, Seigneur, d'opérer une œuvre de salut dans nos cœurs, une œuvre de transformation. Merci de ce que tu es un bon Père qui prend soin de tes enfants. Quel réconfort que c'est, Seigneur, de savoir que nos vies sont entre tes mains et elles sont à une bonne place, là. Alors, dirige-nous ce matin pour, alors qu'on ouvre ta parole. Dans le précieux nom de Jésus, on prie. Amen. Alors, on continue ce matin notre série dans l'Épître aux Colossiens, une série qu'on a appelée Christ suprême et suffisant. Alors, je fais un rapide rappel, un petit résumé de ce qu'on a vu depuis le début de l'Épître. Dans les premiers chapitres, dans les premiers versets jusqu'au verset 12, on a vu une prière selon le cœur de Dieu. On a vu Paul qui était rempli d'actions de grâce pour les Colossiens, puis qui priait pour les Colossiens aussi. On a vu qu'il priait pour ce qu'il y avait de plus important, pour les choses les plus importantes, et un grand modèle de prière pour nous aussi, pour nos prières. Ensuite, les versets 15 à 23, il y a 2 semaines, on a vu Christ, un des passages qui présente Christ comme le plus glorieux, la façon la plus glorieuse dans tout le Nouveau Testament, Christ suprême, créateur et rédempteur. Versets 15 à 23. La semaine passée, notre frère Ovidiu nous a parlé du combat de Paul, des souffrances, des efforts qu'il mettait en œuvre pour faire connaître le mystère de Christ. Le mystère qui est finalement révélé et comment Paul, justement, tout l'effort qu'il mettait à ce que l'Évangile puisse progresser. Et c'était tout un modèle pour nous, notre appel à faire de même aussi, pour faire connaître le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, on arrive dans une section de l'Épître où Paul est plus clairement, et si clairement, là. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir aujourd'hui et la semaine prochaine, c'est les 2 passages, où c'est comme un long passage qu'on a divisé en deux, où Paul s'adresse aux Colossiens pour essayer de corriger le tir au niveau de certaines mauvaises influences qu'il y avait à Colosse. Que ce soit des enseignants officiels, que ce soit des gens dans l'Église ou des gens de l'extérieur qui apportaient un certain enseignement, qui s'éloignaient, qui poussaient Christ vers la périphérie et qui amenaient toutes sortes d'autres choses, comme des choses bonnes ou des choses nécessaires pour progresser ou pour vraiment connaître Dieu. Et Paul dit attention à ses bien-aimés de Colosse, qu'il n'a même jamais rencontrés, mais il les aime, il leur dit de faire attention à ça. Parce que Jésus est tout ce qu'on a de besoin. On n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit d'autre. Jésus est suffisant. Jésus est suprême. Et on n'a pas besoin de rajouter des expériences spirituelles en plus. Et comme on va voir la semaine prochaine particulièrement, on n'a pas besoin de rajouter des règlements ou des codes de conduite supplémentaires à ce que Jésus nous a laissé. Donc ça va être plus pour la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, j'ai intitulé le message « Le remède contre l'erreur, c'est Christ dans sa plénitude ». Et super verset, quelques superbes expressions dans le cadre de ce qu'on va lire aujourd'hui. Alors, ça disait qu'on commençait au verset 6. Dans le fond, je vais couvrir plus à partir du verset 4. Puis pour nous mettre en contexte, je vais reculer juste encore un petit peu plus. On va commencer au début de Colossiens chapitre 2. Où Paul y parle du combat, tous les efforts qu'il met pour faire connaître Christ. Et ça, aux Colossiens, à tous les croyants, à tout le monde romain. Et ça, c'est... Son désir, c'est que Christ soit central et suprême et suffisant. Donc, Colossiens, je lis Colossiens 2 à partir du verset 1. « Je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur, qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Je fais une pause ici. Paul voulait que les Colossiens et que les chrétiens des autres villes d'alentour, comme à l'Odyssée, qu'il leur a écrit une lettre aussi, comme on voit dans Colossiens, dans le chapitre 4. Il veut que ces croyants-là, et nous, on a cette lettre-là, et c'est un encouragement pour nous aussi, de voir Christ comme celui dont on a besoin et que nous avons tout pleinement en lui. Et que c'est en lui, c'est en Jésus que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc, il y avait probablement des influences, des gens qui voulaient rajouter des connaissances supplémentaires, de la sagesse pour les initiés. Peut-être que c'était le début d'un mouvement qu'on appelle le gnosticisme, qui vient du mot gnosis, qui veut dire connaissance en grec. Donc, il y avait une emphase sur une connaissance supplémentaire qu'on rajoutait. On disait que le matériel, c'était pas important. L'important, c'était le spirituel. Donc, il y avait des lois difficiles souvent, là, pour. On jeûnait beaucoup. Des fois même, on se flagellait pour atteindre les sphères élevées, des expériences mystiques aussi. Donc, Paul, il dit, on n'a pas besoin de ça. Si on a Christ, on a tout ce qu'il nous faut. Et si on rajoute à Christ, on est en train de le détrôner. On est en train de le rabaisser, si on fait ça. Et au verset 4, maintenant, le passage pour aujourd'hui. « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. En effet, même si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, et je vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. » Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur Christ. En effet, c'est en lui, en Christ, qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui, avec Christ, par le baptême, et vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui, par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Je vais arrêter là. Alors, tout d'abord, quelle était l'erreur des Colossiens? Ce n'est pas évident de décerner un système, comme j'avais mentionné dans l'introduction, la prédication d'introduction, où on a lu l'Épître au complet il y a quelques semaines. On n'a pas le manuel de théologie systématique des faux enseignants de Colosse pour savoir exactement qu'est-ce qu'ils enseignaient. Tout ce qu'on peut savoir, c'est ce qu'on peut déceler un peu de ce que Paul y dit. Donc, on estime... Bon, Paul, il est en train d'écrire en réaction à ces faux enseignants et on peut avoir une idée de quoi il était question. Au verset 4, Paul, il veut que personne ne les trompe par des discours séduisants. Donc, il y avait une emphase sur les discours, sur la rhétorique, sur le fait de bien parler, de convaincre. C'est quelque chose qui était très prisé chez les Grecs. Les sophistes, par exemple, on aimait se rassembler, écouter les gens discourir, débattre des idées. Dans la première épître aux Colossiens, aux Corinthiens aussi, on voit Paul qui mentionne que, bon, à Corinthe, c'était bien important, les gens aimaient beaucoup ça, les grands discours, et Paul leur dit, je suis pas venu avec des discours, je suis venu avec Jésus. Puis vous avez pas besoin de grands discours, vous avez besoin de Jésus. Et c'est la même chose pour les Colossiens. Et là, il dit, je vous dis ces choses-là, que c'est en Jésus que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, pour pas que vous soyez trompés par des discours séduisants. Et au verset 8, il dit, faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur les traditions des hommes, sur les éléments du monde, et non sur Christ. Donc, il y avait un discours philosophique, il y avait un enseignement. La semaine prochaine, on va voir qu'il y avait une emphase sur des rituels, des règlements, des choses à manger, à ne pas manger, sur des jeûnes. Il y avait un culte des anges au verset 18. Probablement le fait de se joindre aux anges dans une expérience mystique pour adorer le Seigneur. Un genre d'expérience qu'on devait rajouter par-dessus le salut. Mais si tu as ça, là, tu es vraiment proche de Dieu. Et Paul, il dit que ça, c'est la tradition des hommes. C'est des commandements humains, c'est des choses qui ont été rajoutées et qui s'appuient, ça dit, il utilise des mots forts, là, une vaine tromperie ou une tromperie sans fondement qui s'appuie sur la tradition des hommes. Et là, il y a une expression un petit peu énigmatique qui dit qui s'appuie sur les éléments du monde. Je ne sais pas comment vous, c'est traduit. Bon, j'avais quelques façons que c'est traduit. Les rudiments du monde, ouais, la Louis II traduit comme ça. Les forces spirituelles du monde, ça c'est la français courant. C'est ça, donc l'expression littérale, c'est les éléments du monde. Bon, qu'est-ce que ça veut dire les éléments du monde? Il y a un peu deux hypothèses. Majeur, puis les théologiens ont certains tranchent d'un bord, d'autres tranchent de l'autre côté. Les éléments, c'est le même mot qui est utilisé pour parler dans la physique grecque à l'époque. Certains disaient que le monde était formé de quatre éléments, donc le feu, l'eau, l'air et la terre. Et c'est ce mot-là qui est utilisé, les éléments du monde. Donc si c'est ça, cet enseignement-là de Colosse, que Paul dit, faites attention de ne pas vous faire emporter par ça. Les éléments du monde, alors ça serait peut-être des forces spirituelles, comme la français courant le traduit. Donc, les éléments du monde qui pouvaient être divinisés, certainement, on avait le dieu de l'eau, on avait le dieu de la terre, on a le dieu du ciel, on a le soleil. Dans les religions polythéistes, on a tendance à diviniser les différents éléments. Mais peut-être que là, il y avait le fait qu'il y avait certaines forces aussi, certains anges peut-être qui... Oh, cet ange-là, il contrôle plus ces éléments-là, ou peut-être des démons qu'on devait, des forces spirituelles qu'on devait éloigner avec des rituels humains, peut-être justement avec traiter durement son corps. Donc, c'est peut-être des forces spirituelles, puis ça, on pourrait le comprendre dans ce sens-là parce que... Au verset 10, Paul il dit, vous avez tout pleinement en lui, en Jésus, qui est le chef de toute domination et toute autorité. Ça, c'est un terme, c'est des termes pour parler des forces spirituelles qui existent dans le monde. Jésus, c'est le chef de ces forces-là. Vous n'avez pas besoin de passer par les forces. Il y a le chef. Il vous a unis à lui. Fait que vous n'avez pas besoin de passer par les autres. Vous êtes en lien avec le chef, unis avec le chef. Puis au verset 15 aussi, ça dit que Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus a vaincu les forces maléfiques. On n'a plus besoin de chercher à les amadouer. On a été unis avec celui qui a dominé sur elles, celui qui a triomphé d'elles. Alors on n'a plus besoin de les craindre ou de chercher des rituels pour les amadouer ou pour se protéger contre eux. Christ est notre protection. Alors ça, c'est la première façon qu'on pourrait le traduire, force spirituelle, ou qu'on pourrait le comprendre. La deuxième façon, les éléments du monde, ça pourrait être les rudiments de la religion, donc les éléments de base de la religion. Donc, comme on va parler plus la semaine prochaine, le fait d'avoir des règlements à observer. On fait ci, on doit observer telle fête, tel sabbat, telle nouvelle lune, on doit manger ci, pas manger ça, pas toucher à ça, pas goûter ça, pas tel comportement. Et ça, c'est un peu le propre de l'être humain qui se fait une religion. Il se fait des choses qu'il a le droit de faire et de pas faire. Et c'est très facile pour nous d'avoir un christianisme qui va se réduire à ça. Dieu, par sa parole, il nous donne des choses à faire et à ne pas faire. Mais c'est ce qui découle d'une relation personnelle avec le Seigneur. Puis le but de la loi, c'est l'amour. C'est d'aimer Dieu, d'aimer notre prochain. Et ça va se manifester par la pureté, ça va se manifester par le soin des autres, par le sacrifice pour les autres. Alors, le fondement, c'est pas ce que tu dois faire ou ne pas faire. Le fondement de l'éthique chrétienne, c'est l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour notre prochain. Donc, que ce soit des forces spirituelles ou que ce soit une question de règlement, Paul il dit, faites attention de ne pas vous faire tromper. Puis, dans des enseignements qui sont fondés sur ces choses-là et qui ne sont pas fondés sur Jésus. Heureusement, on dirait que l'hérésie ou ces mauvais enseignements-là n'étaient pas rendus trop forts encore. Paul écrit probablement pour éviter de se rendre là, parce qu'il dit au verset 5 que même s'il est en absent de corps, il est avec eux en esprit. Il dit, je vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, la fermeté de votre foi en Christ. Alors, il dit pas, je vois le chaos qu'il y a parmi vous, le fait que vous êtes en train de dépérir. Ça va quand même bien. Mais il y a toujours des dangers. Et c'est la même chose pour nous. L'Église peut bien aller dans notre foi, ça peut bien aller, mais il y a toujours le danger qui n'est pas très loin. Il y a nos tentations. Il y a les épreuves, les tentations de la vie qui peuvent ne pas être bien loin. Ou un intérêt pour quelque chose qui va nous faire dévier, puis perdre le centre. Puis prendre quelque chose qui doit être en périphérie, puis en faire de ça notre centre. Au lieu de rester sur Jésus au centre et garder les choses en périphérie. Alors ça, c'était un peu l'erreur des Colossiens, où est-ce qu'ils allaient. Mais Paul, ce qu'il désire pour eux, au verset 6 et 7, il leur dit, ce pourquoi il prie pour eux, ce qu'il les encourage à faire au verset 6, là, ici, il dit « Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle que vous a été enseignée, et soyez en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. » J'aimerais commencer juste en parlant de cet aspect-là, la reconnaissance à Dieu. C'est un thème qui n'est jamais développé en plusieurs versets dans Colossiens, mais c'est quelque chose qui revient à 6 reprises dans l'Épître aux Colossiens. On l'a vu, entre autres, au chapitre 1, les versets 3 à 8, où Paul rend grâce à Dieu pour les Colossiens. On a vu cette importance-là de ce que nos prières, de ce que nos vies soient remplies de reconnaissance, de gratitude envers le Seigneur, pour qui il est, pour ce qu'il a fait pour nous. N'oublions pas qu'on soit dans des moments de bénédiction, dans des moments de joie, de remercier le Seigneur pour ça, sachant que c'est de sa main que ça vient. Et lorsqu'on on est dans des moments de disette, dans des moments de deuil, dans des moments de difficulté, bien, d'être reconnaissant au Seigneur pour les choses les plus importantes qu'il nous a données, notamment pour le salut, que ça, on ne peut pas le perdre. Qu'on perde des êtres chers, qu'on perde la santé, qu'on perde notre travail, qu'on vienne au bord de la mort et nous-mêmes mourir. Si on est en Jésus-Christ, si on a été unis à lui, ça ne peut pas nous être enlevé. Et je pense qu'avec ça comme au centre de notre vision, on peut demeurer joyeux dans les épreuves. Pas dire d'être naïf ou de refouler notre douleur, mais vivre notre douleur, mais avec un fond de reconnaissance à Dieu quand même pour le salut qui demeure, qu'il nous a donné. Alors, Paul, il dit donc aux Colossiens, comme ils ont accueilli le Seigneur Jésus, marchez en lui. Verset 7, il dit, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi. Trois verbes ici qui nous donnent, soyez enracinés. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez dans vos versions? Peut-être pour ce verbe-là, au début du verset 7. Étant enraciné, fondé en lui. Okay, donc, ça ressemble à ça. L'idée d'un arbre, ce qui est enraciné, ça va être des plantes qui ont des racines profondes. L'apôtre Paul, il nous exhorte, soyez enracinés en Jésus. Pas juste des petites racines, mais des racines profondes. Il y a une citation de J.R.R. Tolkien, celui qui a écrit Le Seigneur des Anneaux, dans Le Seigneur des Anneaux, une citation que mon professeur d'histoire de l'Église aimait bien, il disait que les racines profondes ne sont pas touchées par le gel. Donc, un arbre qui a des racines profondes, même si le sol gèle, les racines vont se rendre plus loin que le gel. Alors, si nos racines sont profondes en Jésus-Christ, peu importe les tempêtes qui peuvent venir, le gel qui peut venir, nos racines vont encore être là pour puiser la paix, pour puiser la joie, puiser la reconnaissance, et avec le salut qui demeure au cœur de nos préoccupations. Soyez donc enracinés, soyez fondés, ou ça pourrait dire bâtis en lui. On pense donc à un arbre qui est bien enraciné et qui pousse, qui est enraciné en Jésus, sur lui, où on pourrait penser à un bâtiment aussi, avec une fondation qui est solide, qui n'a pas été construite sur du sable, mais qui a été construite sur du roc, sur quelque chose de solide. Ceux qui sont ingénieurs civils ici, vous savez bien mieux que moi comment on fait une bonne fondation, mais d'avoir une bonne fondation sur Jésus, de l'avoir construit à bonne place, puis ensuite qu'on construit sur lui, pas sur d'autres choses périphériques. Et quelque chose qui est intéressant dans ces versets-là, c'est les petits mots « en lui » qui reviennent souvent. Donc, juste au verset 6 à la fin, au verset 7, c'est là. Au verset 6, comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Et ensuite, soyez enracinés et fondés en lui. Puis dans le restant de notre passage, il y a plusieurs autres endroits où cette idée de « en lui, en Jésus » ou « sur Jésus », ça revient constamment. Au verset 8, Paul il dit de pas se laisser tromper, être pris au piège par toutes sortes de choses qui sont sans fondement, qui ne sont pas appuyées sur Christ, juste à la fin du verset 8, et non sur Christ. Au verset 9, ça continue « c'est en lui, en Jésus ». Qui habite toute la plénitude de la divinité. Au verset 10, vous avez tout pleinement en lui. Verset 11, c'est en lui aussi que vous avez été circoncis. Verset 12, vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscité en lui et par lui. Wow! On en a beaucoup, je pense que je les ai tout couverts. Toutes ces expressions-là. Oh, verset 13 aussi, vous a rendu à la vie avec lui au milieu du verset. Tous ces petites expressions de deux mots sont des symboles d'une grande réalité. Celui que si on s'est détourné de nos péchés, qu'on a fait de Jésus notre Sauveur et notre Maître, il s'est uni à nous, ou plutôt il nous a unis à lui. Et par un lien inséparable, il nous a unis à lui, il nous a pris dans sa personne, il nous attache à lui. L'expression que Jésus donnait aussi dans l'Évangile selon Jean, c'est qu'il était la vigne et qu'on avait été, on est des branches dont lui, il est comme le tronc de la vigne. Nous, on est des branches, on puise notre vie, notre sève, notre nourriture de lui. Et toutes les facettes de notre salut viennent du fait qu'on a été unis avec lui. Lorsqu'on lisait le livre « La fête dans notre sainteté » de Kevin DeYoung, il y a un des chapitres qui parlait de l'union avec Christ. Je ne sais pas si vous en souvenez. Comme je pense qu'il avait appelé ça, c'est la doctrine la plus importante qu'on ignore. Donc, c'est une doctrine qu'on ne connaît pas vraiment ou dont on parle très peu, parce que cette expression-là, « union avec Christ », se retrouve très peu dans le Nouveau Testament, mais il y a des « en lui, pour lui, sur lui, partout ». Comme ici, on en a 8 dans ce petit passage-là. Cette idée qu'on a été unis avec Jésus-Christ et que tous les aspects de notre salut découlent de notre union avec lui. Et on va voir un petit peu plus tard, alors qu'on va regarder les versets 11 à 15, en quoi ça consiste. Mais la question que j'aimerais qu'on se pose en ce moment, alors qu'on vient de recevoir cette exhortation-là, de Paul, qui est inspiré par l'Esprit, qui nous parle ce matin, qui dit « Marchez en Jésus, marchez en Christ, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, telle qu'elle vous a été enseignée, telle que le Seigneur nous l'a donnée par sa parole. » Et je réfléchissais à ça, si on te demandait de répondre sur un questionnaire, donc un questionnaire à propos de toi-même, pour un cours, puis que ça pose la question « Qui es-tu? » en un paragraphe, deux, trois phrases. « Qui es-tu? » Qu'est-ce que tu répondrais? « Qui suis-je? » Naturellement, on pourrait penser peut-être à certaines choses, à notre âge, à où on est né, à notre famille, à notre profession, nos études. Mais quelle serait la place de Jésus? Quelle serait la place? Est-ce que ça me viendrait instinctivement, ma relation avec Dieu? Est-ce que mon identité en Christ y apparaîtrait? Le fait que j'ai été uni à Jésus, que je suis mort avec lui, ressuscité avec lui, que je suis enfant de Dieu, est-ce que ça serait présent sur mon paragraphe de qui je suis? Et est-ce que ça serait comme une pensée périphérique ou est-ce que dans mon cœur, ça serait quelque chose qui sera en plein milieu de mon identité. Qui je suis? Oui, je suis un père. Oui, je suis un pasteur. Oui, je suis le fils de mes parents. Mais je suis un enfant de Dieu. J'ai été uni à Jésus-Christ. Et on peut m'enlever tout le reste, mais ça ne pourra jamais m'être enlevé. Qu'est-ce qui fait l'objet de toutes nos pensées? Qu'est-ce qui nous obsède? Qu'est-ce qu'on a tendance à toujours réfléchir. ce que c'est, quelle est la part que Jésus a dans nos pensées de tous les jours. On pense probablement souvent à nos études, à nos notes, à notre travail. Ça peut être peut-être les trois pouvoirs d'attrait les plus forts sur nous, le sexe, le pouvoir, l'argent. Qu'est-ce qui fait l'objet de nos pensées? La santé physique ou mentale, nos possessions, nos enfants, le regard des autres, nos projets de vacances. Quel est le rôle de Jésus-Christ dans ma vie? Est-ce qu'il est vraiment numéro un de mon amour? Est-ce que ça paraît dans ce que je fais avec mon temps, avec mon argent, avec mes priorités? Une autre question pour se poser, une dernière question que j'aimerais vous poser ce matin, alors qu'on veut mettre ça en pratique, le fait d'être enraciné en Jésus, fondé en lui, bâti sur lui. Qu'est-ce qui serait pour toi une vie réussie? Si tu avais à répondre, ce serait quoi pour toi une vie réussie? Ou, si je pose la question autrement, quelle est ta définition du succès dans la vie? Il y a beaucoup de bonnes choses qu'on pourrait mentionner, mais où est le fait d'aimer Dieu de tout notre cœur, de lui plaire avec tout ce que nous sommes? Est-ce que ça en fait partie? Est-ce que c'est au milieu? Quelle est la part de faire connaître Jésus, de faire des disciples? L'appel qu'il nous a donné, notre appel numéro un. Est-ce que ça fait partie de ta définition du succès, d'une vie bien vécue? On n'a pas besoin de discours séduisants de qui que ce soit pour nous égarer dans de fausses philosophies. On le fait si facilement. Et notre société, bien sûr, nous entraîne dans toutes sortes de directions, et notre cœur tortueux nous entraîne dans toutes sortes de directions. Mes chers amis, comme on a besoin d'être enracinés chaque jour dans les vérités de l'Évangile, on a besoin de plonger nos racines, non pas dans le désir de posséder, non pas dans la réussite selon le monde, mais la réussite selon Dieu. On a besoin de revenir à la source. On a besoin de faire une priorité de communier avec Dieu par sa parole, par la prière. Comment ça se passe, votre relation avec Dieu pendant la semaine? Est-ce que ça se limite au dimanche? Est-ce que c'est quand j'ai le temps ou quand ça me tente? Faisons-en une priorité. On en a besoin dans un monde où on est tiraillé à droite et à gauche, où notre cœur est prompt à s'égarer, comme on a besoin d'être enraciné à la bonne place, de revenir à la source de vie à tous les jours, de revenir arroser notre plante avec l'eau vive, avec la communion avec le Seigneur Jésus. Je vais continuer au verset 9. L'apôtre Paul, il a parlé de tous ces mauvais fondements sur lesquels fonder notre vie, puis on vient d'en mentionner quelques-uns, des définitions du succès, de la vie réussie, de qui nous sommes, qui ne sont pas fondées sur Christ. Et Paul nous dit au verset 9, « En effet, c'est en lui, en Jésus, qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Ça nous rappelle ce qu'on avait vu il y a deux semaines, Colossiens 1, 15 à 23, où ça parlait de Jésus, le suprême créateur, qui existe avant toute chose, que tout subsiste en lui. Verset 19, « En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. » Puis là, c'est encore plus clair, Colossiens 2, 9, « En effet, c'est en lui, en Christ, qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Jésus, Dieu éternel, manifestation de Dieu, la parole de Dieu, faite chair. Et Jésus, le pont parfait entre Dieu et les hommes, parce qu'il est à la fois Dieu et qu'il est à la fois homme, venu nous réconcilier avec le Père. Et Paul va développer comment, en fait, la plénitude de Jésus-Christ, c'est ça qui est le remède aux mauvaises influences. Puis il nous rappelle comment notre union avec Christ est profonde et qu'elle touche toutes les facettes de notre salut. Il dit au verset 10, vous avez tout pleinement en lui. Et lui, Jésus, il est le chef de toute domination, de toute autorité. Et là, il va développer quatre aspects de notre salut. Le premier, c'est la circoncision spirituelle, verset 11. Ensuite, notre ensevelissement, notre résurrection avec Jésus, verset 12 et début du 13. Le pardon de toutes nos fautes, fin du verset 13, verset 14. Et le triomphe sur toutes les forces spirituelles, verset 15. Donc, on va les regarder une à la fois. D'abord, la circoncision spirituelle. Paul, il dit, c'est en lui, c'est en Jésus que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. C'est possible que les faux enseignants de Colosse mettaient un accent sur la circoncision. Si vous êtes pas juif, que vous êtes grec, vous avez besoin de vous faire circoncire, messieurs. C'est ça le signe de l'appartenance à Dieu. Jésus, c'est bien, la circoncision, c'est mieux. Ben, pas nécessairement, mais il faut en plus. Il faut être circoncis. Mais Paul, il dit que la circoncision, la vraie circoncision, c'est celle du cœur. Et c'est celle que Dieu opère en nous, par son esprit. La circoncision, c'était le signe visible de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. On le voit dans Genèse 17, Dieu dit à Abraham de se faire circoncire lui et que tous ses enfants, tous ses descendants mâles devraient être circoncis le huitième jour et qu'ils porteraient dans leur chair un signe de leur appartenance à l'Éternel, qui serait différent des peuples parce qu'eux, ils appartiendraient à l'Éternel. Et pour les Juifs, ils cherchaient donc à être très fidèles à ce commandement de Dieu pour eux. Et lorsqu'ils ne l'avaient pas été dans leur histoire, ils avaient parfois été sévèrement repris. Lorsque le signe de l'alliance, qui était une des choses les plus importantes, n'était même pas pratiqué, alors ça donnait une idée de où est-ce qu'il était le cœur des Juifs par rapport à l'Éternel. Alors, pour les Juifs, lorsqu'un homme était incirconcis, c'était un synonyme qu'il n'avait aucun désir d'obéir à l'Éternel. Et donc, il vivait selon les pratiques idolâtres des autres peuples interdites par Dieu. Cependant, avec l'ouverture du peuple de Dieu aux Grecs et aux autres non-Juifs après la Pentecôte, des non-Juifs ont reçu le Saint-Esprit alors qu'ils n'étaient pas circoncis. Et là, si vous lisez les Actes des Apôtres dans Actes 10, 11, c'est une des choses que les Juifs, ils se regardent puis ils disent « Mais là, ils sont pas circoncis, puis ils ont reçu le Saint-Esprit. Est-ce qu'on devrait leur demander de se faire circoncire? » Ils disent « Non, le signe de la Nouvelle Alliance maintenant, c'est le baptême du Saint-Esprit, puis c'est symbolisé par notre baptême physique ensuite. Alors, OK, non, pas besoin de se faire circoncire. » Et Pierre avait eu cette apparition trois fois avec la nappe qui descend. Dieu lui a dit « Ce que j'ai déclaré pur, ne le considère pas impur. » OK, donc la circoncision n'était plus nécessaire comme façon de démontrer l'appartenance à Dieu. Dans Romains 2, versets 28 et 29, Paul dit « Le Juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps. » Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'Esprit et non par la loi écrite. Et donc, la vraie circoncision maintenant, c'est-à-dire le signe de l'appartenance au peuple de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Et cette circoncision que Christ fait, à la fin du verset 11, ça dit, c'est le fait de nous dépouiller du corps de notre nature pécheresse, de notre chair. Donc Jésus, il vient, il met à mort notre ancienne nature, il nous unit à lui. On est, comme notre frère Théophile nous partageait, on est une nouvelle création maintenant. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles avec ce que Jésus a accompli. Alors, la deuxième chose où on est uni avec Jésus dans toute sa plénitude, c'est dans son ensevelissement et sa résurrection. Au verset 12, Paul dit « Vous avez en effet été ensevelis avec Christ par le baptême et vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. » Donc par la foi en Jésus, nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit qui est symbolisé par le baptême par immersion dans l'eau. Lorsqu'on est plongé dans l'eau, c'est un symbole de notre union avec Jésus-Christ dans son ensevelissement. Jésus a été enseveli parce qu'il était vraiment mort, mais il est vraiment revenu à la vie. Et lorsqu'on sort de l'eau, c'est un symbole de cette union avec Jésus, que notre ancienne vie, elle est morte, et que maintenant on ressuscite, on est ressuscité avec Jésus, une nouvelle créature. Et on goûte déjà à la vie de la résurrection. C'est intéressant parce que Paul, il dit, « Vous êtes aussi ressuscité en lui. » Verset 13, « Il vous a rendu à la vie avec lui. » Ça, c'est au présent, c'est au passé. C'est pas « Vous allez ressusciter. » Ça, c'est vrai aussi. Lorsque nos corps vont périr un jour, eh bien, ils vont être ressuscités au dernier jour lorsque Jésus va revenir. Mais on goûte déjà, par notre union avec Jésus, à sa résurrection, à cette vie nouvelle, ce pouvoir-là de pouvoir vivre une vie sainte qui plaît au Seigneur par l'œuvre de son Esprit qui agit en nous. Dans Éphésiens 2, un autre magnifique passage qui parle de ça. Si jamais Lisiane accouche cette semaine, j'ai un ami qui va, un pasteur, un ami à moi de l'église de Saint-Hyacinthe, qui va venir prêcher sur ce passage-là dans Éphésiens 2. Je commence à Éphésiens 2 au verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, donc de ceux qui étaient morts. Non, je vais aller au verset 1. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, le Paul, il s'inclut comme juif, il dit nous aussi les juifs, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre chair, de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine de nos pensées, et nous étions, par nature, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier ou ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui, Dieu, qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ. On a une nouvelle nature, une nouvelle création pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alors, déjà, dans ce que Jésus a accompli à la croix, en mourant pour nous, en ressuscitant des morts, nous avons la plénitude. Nous n'avons pas besoin d'aller vers des choses périphériques. Christ, dans sa plénitude, nous donne la mort à notre ancienne nature, nous donne de vivre de sa vie de résurrection, déjà ici même, par son Esprit qui vit en nous. Troisièmement, c'est le pardon de nos péchés. À la fin du verset 13, au verset 14, Paul dit « Il nous a pardonné toutes nos fautes. » Et ça, on n'aurait pas pu le faire par nous-mêmes. On ne peut pas mériter le pardon de Dieu. C'est vraiment une grâce, comme on vient de le lire dans Éphésiens 2. On ne pouvait pas les payer. On ne pouvait pas effacer notre dette. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit la Bible. Et Dieu ne peut pas voir le péché et que nous vivions. Nous étions, comme on l'a lu dans Éphésiens, par nature, des enfants de colère, c'est-à-dire des enfants destinés à la colère de Dieu. On avait besoin d'un sauveur. Et ça ne pouvait pas être nous-mêmes. Ça ne pouvait pas être notre père, notre mère. Mon ami, si ta foi est basée sur la foi de ton père ou de ta mère, ou sur la foi de ta femme ou de ton mari, ou sur la foi de tes leaders spirituels, ou la foi d'un orateur, d'une oratrice que tu aimes beaucoup écouter, d'un auteur chrétien, si ta foi est basée là, elle n'est pas basée à la bonne place. Et peut-être qu'elle est pas solide. Peut-être qu'elle n'est pas bonne. Peut-être qu'elle n'est pas vraie. Le pardon de nos péchés vient par la foi en Jésus. Est-ce que lui soit notre roc? Est-ce que lui soit celui? Il est le seul qui peut pardonner nos péchés. À la croix, il a versé son sang. Il a subi la colère de Dieu, la condamnation que nous méritions pour nos péchés, pour notre rébellion volontaire et involontaire contre Dieu. Mais Jésus a payé cette dette-là. Le prophète Ésaïe l'avait prophétisé 600 ans d'avance. Nous étions tous comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui, le serviteur souffrant de l'Éternel, l'iniquité de nous tous. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par la mort de Jésus à la croix que nous pouvons être guéris, que nous pouvons être pardonnés, que la dette à notre compte peut être effacée. Et Paul, au verset 14, utilise une image. En Colossiens 2, 14, il dit, « Il, c'est-à-dire Jésus, a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. » C'est le terme, là, un acte rédigé contre nous, ça c'était une dette écrite. Donc, où voici les dettes qu'on a envers notre créancier, et cet acte-là, il a été annulé, il a été effacé. Il a été cloué à la croix et Jésus l'a payé à notre place. Notre dette est effacée par la foi en lui. Quel privilège! Et au verset 15, ce quatrième élément, le fait que Jésus a triomphé sur toutes les forces spirituelles. Paul dit, « Il, Jésus, a ainsi dépouillé » Donc, par la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités spirituelles, les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Lorsque les Romains faisaient une conquête auprès d'un peuple barbare, la majorité de l'armée, j'imagine, avait été tuée du peuple conquis. Cependant, ceux qui restaient étaient pris comme prisonniers et étaient traînés, enchaînés, à travers la ville de Rome, et le général conquérant était à l'avant, menait ses troupes et les prisonniers, et sous les huées des gens et les acclamations pour le général et les soldats romains qui revenaient en triomphe, ça c'est ce qu'on appelait un triomphe. Et c'était une façon pour Rome de savoir que son armée était conquérante. Les citoyens savaient, mes taxes servent à quelque chose, puis on est en train de gagner. On les bat, les barbares. Puis les voici humiliés maintenant qui passent au milieu de nous. Eh bien, Paul, il dit que ça, c'est... Il utilise ce qui se faisait à l'époque pour dire c'est ça que Jésus a fait à la croix. Les démons, Satan probablement, qui pensaient avoir remporté une victoire en faisant tuer Jésus. Satan est entré en Juda pour que Jésus soit livré, pour qu'il soit tué. Peut-être qu'il pensait avoir remporté une victoire à ce moment-là. Mais non, bien au contraire, cette croix qui était synonyme de malédiction, synonyme de malfrat, de tueur, des pires criminels, est devenue le symbole du triomphe et de la victoire sur la mort, sur l'enfer, sur Satan et toutes les forces spirituelles. Et Jésus les a publiquement livré en spectacle, a triomphé d'elle par la croix. Un instrument de torture, celui sur lequel Jésus a subi le poids de nos fautes, est devenu le symbole de son triomphe lorsqu'il a triomphé de la mort. J'aimerais maintenant faire quelques applications de ça, du fait que Jésus a triomphé sur toutes les forces spirituelles. La foi occidentale moderne, sans faire exprès, a tendance à encourager à diviser le monde entre le sacré et le séculier. Donc, on limite le champ d'action de Dieu à deux choses. la lecture biblique puis la prière et ce qui se passe en église. Ça, c'est les choses sacrées, c'est les choses spirituelles. Dans ce domaine-là, Dieu y travaille. Mais tout le reste, ça, c'est du séculier. Donc ça, Dieu, il n'est pas trop intéressé, il ne gère pas trop de ces affaires-là. Mais en faisant ça, par exemple, dans des peuples, plusieurs d'entre vous venez d'Afrique, venez d'Haïti, où c'est commun d'expérimenter des manifestations des forces maléfiques. Et souvent, des occidentaux modernes comme moi ou comme les missionnaires qui ont apporté l'Évangile en Afrique, en Haïti, par exemple, disaient que un petit peu, il y a Dieu, puis il y a les hommes, puis tout le monde spirituel n'était pas vraiment présent dans leur théologie. Alors, les chrétiens disent, OK, Dieu, il me sauve, puis il m'amène pour l'éternité, mais qu'est-ce qui arrive si je suis malade? Qu'est-ce qui arrive si on m'a jeté un sort? Qu'est-ce qui arrive avec les forces maléfiques? Puis, parfois, les chrétiens et les missionnaires ont tendance à dire, « Oh non, ça, c'est juste la superstition. Ça, c'est pas vrai, ça. C'est des raconteurs. C'est pas vrai. » Bon, alors, les gens savent qu'il y a des vraies forces maléfiques qui sont à l'œuvre. Alors, bon, si le pasteur, si Jésus, il est pas capable de régler mon problème, alors je vais aller voir un sorcier, je vais aller voir un chaman. Lui, il deal avec les maladies. Lui, il deal avec les sorts. Si Jésus n'est pas capable de s'en occuper, ben on va aller vers quelqu'un qui peut s'en occuper. Mais pourtant, on voit bien dans Colossiens que Jésus a triomphé sur toutes les forces maléfiques. On n'a pas besoin de dealer ailleurs. Puis là, pseudo-magie blanche n'est rien d'autre que d'utiliser encore des démons pour des démons. Fait qu'on n'est pas en train de toucher, ça n'existe pas la magie blanche. Il y a Jésus, puis il y a la magie noire. La réponse biblique, c'est pas de minimiser ce milieu-là, mais de dire que Christ est suprême sur toutes ces choses. Il nous a libérés du royaume des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils. Alors même si nous craignons les forces maléfiques, si elles nous narguent ou nous menacent, nous avons réconfort dans le fait que Christ est plus fort qu'eux et qu'ils n'ont plus autorité sur nous si nous sommes en Jésus-Christ. Jésus est le suprême maître des forces spirituelles. Pas le chaman, pas le prêtre vaudou, pas la diseuse de bonne aventure, pas le magicien, pas l'horoscope. Jésus est suprême sur notre santé. On n'a pas besoin de consulter le magicien et de s'associer ainsi aux œuvres des ténèbres. Nous avons le guérisseur en chef qui a vaincu les puissances démoniaques. Alors prions pour que sa puissance se manifeste. La prière au nom de Jésus est l'arme que Dieu nous a donnée pour lutter contre les forces des ténèbres. Et Jésus a triomphé d'elles. On n'a pas besoin de manufacturer cette force en nous ou de chercher à inventer des rituels qui pourront exercer une force. Le nom de Jésus est tout-puissant. Jésus est celui qui a triomphé et qui permet aux forces occultes de continuer à avoir une certaine force, rien qui se fait sans que Dieu le permette. Il demeure souverain et tout-puissant. À l'inverse, les Occidentaux modernes comme moi, qui n'ont aucune expérience avec ce genre de manifestation spirituelle-là, ça peut être facile pour nous de penser que, justement, c'est de la superstition ou à l'inverse, on considère que tout est matériel. Le matérialisme, alors, oui, Dieu s'occupe de notre âme, mais tout c'est biologique, tout est matériel. Par exemple, pour notre santé physique, on a l'impression que l'être humain a le contrôle par la médecine moderne, par la médicamentation, par les chirurgies, que les médecins sont nos sauveurs plus que Jésus au niveau de notre santé. De penser que notre santé, c'est purement quelque chose de biologique. Mais dans une vision du monde biblique, est-ce que ça fonctionne, ça? Non, Jésus est maître sur le biologique aussi. Jésus peut faire des miracles au niveau de notre santé aussi. Un autre domaine où notre pensée moderne, matérialiste, peut influencer ce qu'on pense, c'est au niveau des récoltes, par exemple. Bon, je ne pense pas qu'on a personne qui est agriculteur ici, mais certains qui ont travaillé au niveau de l'agriculture ou qui le font. Donc aujourd'hui, on peut contrôler l'irrigation, la fertilisation, la qualité du sol, la génétique des semences. Donc on n'a plus besoin de prier pour les récoltes. On contrôle tout ça. Cependant, dans une vraie vision du monde biblique, le Seigneur est au contrôle aussi des récoltes. On ne maîtrise pas encore la pluie, mais ça s'en vient. Peut-être là, comme les films apocalyptiques, là, quand on essaie de trop jouer avec la température, puis là, oh, ça nous ressort d'en face. Mais bon, le Seigneur demeure souverain. C'est pas en dehors de son contrôle. Au contraire, Jésus est suprême sur tout. Dieu est le Dieu suprême sur toute chose. Un dernier élément où on peut avoir tendance à oublier la suprématie de Jésus, c'est dans nos luttes ou nos difficultés avec la santé mentale ou nos comportements hors de contrôle. La psychologie moderne a développé tout un éventail de vocabulaire pour nous aider à identifier certaines conditions de la souffrance humaine. Des mots comme dépression, anxiété, agressivité, bipolarité, autisme, trouble de personnalité limite, trouble obsessif-compulsif, trouble d'attention, hyperactivité, dépendance. La Bible ne parle pas d'expérience humaine dans ces termes-là. Est-ce que ça veut dire donc que Dieu n'a rien à dire sur nos expériences de telles difficultés? Poser la question, c'est y répondre. On peut croire, ou même ça peut nous amener à croire qu'on n'est pas vraiment responsable du mal qu'on fait. Ah ben ça, c'est mon trouble de comportement, ça, c'est mon trouble, c'est mon hérédité, c'est la chimie de mon cerveau, ou c'est mon environnement, c'est la faute à mes parents, c'est la faute à mon contexte socio-économique. Et on se déresponsabilise. Ou à l'inverse, on peut croire qu'il n'y a pas d'espoir pour des gens comme nous. Des gens comme nous qui souffrons de tels maux, de telles difficultés dans la chair. Ça peut ressembler à nos forces élémentaires modernes. Pas nécessairement des esprits, mais les difficultés qu'on vit au niveau de notre santé mentale. Est-ce que Jésus ne serait pas suprême sur ça aussi? Oui. Et Jésus, malgré que la guérison totale de nos corps n'est pas promise dans ce monde-ci, veut nous accompagner à travers nos différentes difficultés, à travers nos difficultés de santé mentale. Il y a beaucoup de choses qui sont classées comme des troubles ou des maladies, où il y a un mélange d'influence du corps et un mélange de la chimie du cerveau avec l'influence du cœur. Quels sont mes désirs à travers ça? Comment est-ce que je peux exercer la foi? Comment est-ce que je peux me détourner de mes péchés? Comment je peux me repentir malgré que mon cerveau fonctionne pas aussi bien qu'il devrait? Plusieurs d'entre vous, vous vieillissez, votre corps ne fonctionne plus comme il devrait. Et parfois, c'est notre cerveau qui ne fonctionne pas comme il devrait. On peut avoir des maux de dos, on peut avoir des problèmes de digestion, on peut avoir des problèmes aussi au niveau de la chimie de notre cerveau. Mais le cerveau est l'organe le plus complexe du monde, de l'être humain. On comprend peut-être, si on comprend 85% du fonctionnement du corps humain, on comprend 3% du fonctionnement du cerveau. Alors c'est quelque chose qui nous dépasse de loin. Donc il y a l'influence du corps, mais il y a aussi l'influence du cœur à travers ça. Et la Bible a beaucoup à nous dire, à nous parler dans nos luttes avec la santé mentale. La Bible, on pense aux psaumes, a beaucoup à dire sur la souffrance, a beaucoup à dire à propos du fait de se sentir dans la noirceur, dans le gouffre. La Bible parle du stress, de l'anxiété, en parlant de peur, en parlant de crainte. La Bible parle de peut-être l'agressivité en parlant de colère. La Bible parle de dépendance en parlant des désirs tordus de notre cœur, de l'esclavage du péché. Alors, malgré les troubles de santé mentale ou les troubles comportementaux auxquels nous ou nos bien-aimés faisons face, notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Il demeure fidèle. Il veut nous accompagner à travers nos luttes et nos souffrances. Mais il veut aussi continuer à purifier le péché sous toutes ses formes et le remplacer par le fruit de son esprit. Notre démarche de foi et de repentance est appelée à continuer malgré les différents handicaps et les différents les différentes luttes que nous avons. Si vous luttez donc avec un de ces domaines et que vous vous sentez à l'aise d'en parler, bien, je me rends disponible si vous voulez, pour si vous voulez m'écrire un courriel, m'appeler cette semaine. Il y a une littérature chrétienne de mieux en mieux équipée et balancée et compatissante qui apporte qu'est-ce que la Bible a à nous dire avec nos différentes luttes, avec nos différentes maladies mentales, les choses auxquelles on peut faire face. Des auteurs comme Paul David Tripp, David Paulison, Ed Welch ont écrit de nombreux ouvrages sur la dépression, sur l'anxiété, sur parfois des courts ouvrages sur l'autisme, sur le trouble, le déficit de l'attention. C'est pas que ça va être guéri, mais comment est-ce que, à travers mon expérience de vivre dans un monde déchu, souvent on oublie que Jésus peut être suprême dans ça aussi. Où on dit, ah, ça c'est ma maladie, ça c'est mon trouble, et c'est comme un domaine de notre vie où on va cesser de porter du fruit. Alors que Dieu, il nous appelle à le suivre à travers la maladie, à travers nos luttes, à travers nos dépendances pour lutter pour la liberté avec lui. Il existe de plus en plus de ressources chrétiennes. Lisiane, ma femme Lisiane, Manick Dufresne et moi, on a fait un cours d'introduction au counseling biblique à l'automne. C'est un cours qui vise à équiper les chrétiens à accompagner nos frères et sœurs dans notre marche avec Dieu, avec leurs difficultés. Puis, au Québec, il y a un mouvement pour aider les chrétiens à se former pour qu'on puisse prendre soin les uns des autres, avec toutes les souffrances qu'on peut vivre à ce niveau-là aussi. Mais ça fait partie du message de Colossiens de dire qu'en Christ, tout peut être vaincu. À la croix, toutes les puissances qui s'opposent au projet de Dieu sont désarmées. Ça peut être un processus long et douloureux, mais il y a de l'espoir. L'évangile de la croix de Jésus-Christ est la splendide puissance toute suffisante de Dieu pour désarmer tout ennemi de Dieu, que ce soit une force démoniaque ou que ce soit le résidu du péché en nous, du plus petit péché à celui qui est le plus envahissant et désespérant. Le triomphe est possible. Malgré qu'il sera toujours incomplet sur cette terre, le triomphe commence déjà, à la croix, par l'union avec Jésus, et va s'achever bientôt au retour de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Soyez bénis.